gewünscht.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien assis, parce qu'on va voir un marathon tout à l'heure. Je ne savais pas que Philippe Onchaud était capable de faire des grands trails au marathon, mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Non, on va voir un survol de l'Ancien Testament, et ça va être vachement intéressant, on se réjouit. Je vous accueille au nom du Christ dans cette église, soyez les bienvenus, que soyez nouveaux, récemment arrivés, ou comme moi, il y a longtemps. Et presque né dedans, voilà, soyez les bienvenus. J'aimerais prier pour commencer ce culte. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte du fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta présence. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever et à chanter le numéro 428. vous pouvez garder la petite pièce. Hein. Voilà, je vous invite à un temps de louange avec l'équipe. Merci à Xavier et sa bande. Et nous allons jouir de ce moment de prière, de louange.
Yeah. Seigneur Jésus, quel privilège, quelle joie de nous retrouver en famille, autour de toi. T'es le lieu de lumière, t'es toi. Toi, tu as tout créé, tu es celui qui nous aime, t'es celui qui a voulu que nous existions chacun, t'es celui qui a un plan pour la vie de chacun de nous, t'es celui qui nous tend la main. Mais quelle joie, mon Dieu, dans nos vies qui font parfois le yo-yo, ça va bien, ça va pas bien, t'es toujours là, t'es notre Père dans les cieux, tu nous aimes, tu t'occupes de chacun de nous, tu t'occupes de nos enfants. Merci parce que tu es tout puissant, tu règnes sur nos vies. Merci parce que un jour on a pu naître de nouveau. Merci parce que quiconque entend ta voix peut dire oui et puis naître de nouveau, puis commencer une vie avec toi. Commencer une vie avec l'horizon de ensuite, un jour, vivre avec toi. Un jour, te louer comme on est en train de le faire pour l'éternité. Je me réjouis tellement, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre? C'est pas une question de demander comment on peut faire pour l'éviter. La question c'est comment est-ce que je peux vivre ce don sans le répandre? Parce que c'est ce que le Seigneur a mis à chacun dans notre cœur, et sans le répandre à ceux qui sont autour de nous, c'est pas possible de le vivre. Donc c'est pas une question, c'est une proclamation. Et Seigneur Jésus, c'est ce que j'aimerais, ce que nous aimerions te demander, c'est que notre Église ici, nous puissions répandre le don que tu nous as fait, c'est que nous puissions le partager avec nos familles, avec nos proches, avec nos voisins, avec ceux qui vivent autour de nous. Seigneur Jésus, nous demandons ta bénédiction sur nous, que tu vives en nous, que nous puissions être tes porte-paroles autour de nous, que nous puissions répandre autour de nous, à notre tour, ce don si merveilleux de la vie avec toi et de la vie éternelle qui nous attend. Béni soit ton nom. Amen. On peut reprendre place.
Voilà, ça va être l'heure des potes du dimanche. Mais une petite annonce, dimanche prochain, le 29, si je ne me trompe pas, si ma comptabilité est correcte, le dimanche 29, il y a la sortie des potes. Donc ceux qui n'ont pas reçu un email ou qui n'est pas au courant, qui veulent que leurs enfants rejoignent les potes, vous pouvez vous adresser à Johan. Johan, t'es où? Voilà, donc regardez avec Johan, il y aura les potes du dimanche. Puis aujourd'hui, il y en a une qui a 10 ans, hein, aussi une des potes du dimanche, Zoé a 10 ans. Alors, joyeux anniversaire. Alors, on remercie les moniteurs des potes du dimanche qui vont partir avec les enfants maintenant, mais je vais encore prier pour vous. Seigneur, merci pour tous ces enfants, et même si l'histoire n'a pas joué comme je pensais, merci Seigneur parce que tu nous demandes aussi d'être comme eux et de te faire confiance et de croire en toi. Bénis-les maintenant, pendant ce moment aussi en bas, avec leur moniteur. Amen. Alors merci pour ceux qui les accompagnent, merci beaucoup. Et en parenthèse, je crois qu'ils ont encore besoin d'aide. Ceux qui sont intéressés à rejoindre les potes pour aider, d'être moniteurs, vous pouvez aussi vous adresser à Johan et son équipe. Merci. Voilà, j'invite Philippe pour son marathon. C'est vrai qu'on va commencer une série sur trois dimanches, une série de prédications et sur richesse, pauvreté et notre rapport au bien. Donc ce matin, il va nous faire un grand survol et on sera là. Merci Philippe.
Merci Roger. Eh bien, bonjour à chacun, chacune. Cet automne, nous allons effectivement survoler en trois étapes le vaste thème du chrétien et l'argent et l'Église, ou mes sous, l'Église, ma gestion des biens. Le chrétien et l'argent et l'Église. Un sujet exigeant. Parce que c'est un sujet un peu tabou. Pas pour les journalistes, pas pour les économistes, pas pour les présidents de conseils d'administration, mais pour les citoyens lambda que nous sommes, le sujet est parfois un peu tabou. Il paraît qu'aux USA ou en Grande-Bretagne, on ne se gêne pas pour dire combien on gagne. Mais chez nous, c'est la vie privée. Et alors, parler d'argent et de religion, c'est encore pire. C'est le pompon. Traditionnellement, on se méfie d'une église qui parle de l'argent. Parce qu'elle nous culpabilise peut-être en nous disant de devenir pauvre comme Job. Ou alors elle donne l'impression de se faire de l'argent sur le dos de ses membres. Ou encore, on l'accuse d'accumuler d'immenses richesses dans les caves du Vatican. La foi en Dieu, on est plutôt d'accord avec ça. Mais laissons l'argent de côté. Laissons l'argent en dehors des questions de foi. Je dis bien que cette méfiance-là, elle est traditionnelle. De nos jours, certains milieux évangéliques parlent de l'argent et un peu trop, peut-être, ou mal. Nous y reviendrons. Mais pour commencer, j'aimerais simplement nous amener à reconnaître que nous avons des préjugés à ce sujet qui nous empêchent parfois de regarder ce que la Bible dit du chrétien et de l'argent. Jésus en a pourtant parlé plus souvent du chrétien et de l'argent que du ciel et de l'enfer réunis. Il y a infiniment plus d'occurrences dans le Nouveau Testament sur notre rapport au bien que sur la question de l'enfer ou du ciel. Et pourtant, dans nos églises, on en parle assez peu. Vous avez donc du courage, je vous remercie et vous félicite si vous acceptez de suivre cette courte série. J'ajoute une autre complication. C'est que les gens qui parlent de sujets, de thèmes économiques en rapport avec la Bible, ont souvent tendance à le faire en fonction de leurs convictions politiques ou philosophiques. Si notre idée de fond, c'est que les gens doivent absolument s'assumer exclusivement dans des régimes de liberté, nous allons accentuer ce côté-là de l'enseignement biblique. Puisque l'être humain est responsable de son sort, voilà que la Bible est embauchée un peu trop facilement au profit du libéralisme, voire de l'ultralibéralisme. À l'inverse, si notre sentiment de base, c'est que les gens doivent être absolument, toujours, en toute occasion, solidaires les uns avec les autres, nous allons trouver beaucoup de textes qui vont dans ce sens. Voilà que la Bible nous ferait voter ensemble à gauche. Tenez que les marxistes ont trouvé, notamment dans l'Exode, leur fameuse théologie de la libération. Bref, on a tous et toutes une certaine sensibilité quand on parle de ces questions-là. Et nous avons, je crois, en tout cas moi, j'ai un gros travail à faire pour recevoir ce que la Bible dit à ce sujet en particulier. Le libéral que je pourrais être de temps en temps aura à tenir compte de la solidarité. Le socialiste que j'ai envie d'être de temps en temps aura à tenir compte de la responsabilité individuelle. Personne n'arrivera jamais à se libérer complètement de son parti pris, mais nous devons essayer d'identifier nos présupposés si nous voulons avancer en direction d'une lecture un peu plus objective de la Bible sur ces questions. Comme dit, trois temps cet automne autour de ce thème. Et voici comment je propose de découper le sujet. Pour ce matin, un semi-marathon, parce que décidément je ne peux pas faire plus, avec un regard sur l'Ancien Testament et sur la dimension sociale qui est recoupée sous richesse et pauvreté. Ça, c'est pour ce matin. Dans 15 jours, on va découvrir Jésus et le défi qu'il nous laisse dans notre vie personnelle au travers de quelques rencontres de Jésus sur la thématique de notre rapport au bien. Et pour terminer, le 27 octobre, nous réfléchirons à la question de l'argent et l'Église selon les données des Actes, les lettres de Paul, et puis j'y ajouterai quelques données pratiques concernant des grands principes qui encouragent la générosité. Pour ce matin, l'argent dans la loi, l'Ancien Testament, donc, commence où ? Eh bien, on commence avec la première page de l'Ancien Testament. Pour dire, avec la Genèse, avec Genèse 1, que la création matérielle, elle est bonne. Le monde créé, il est bon. Il est même très bon. Ça vous paraît évident ? Que le monde créé, le monde matériel, la corporalité, la terre, c'est bon ? Ça vous paraît évident ? C'est que vous n'avez jamais entendu un trésorier se lever dans une assemblée générale d'église en s'excusant de venir parler des choses bassement matérielles. Comment ça, bassement matériel ? Alors que Dieu a créé la matière, la vie corporelle, le travail, le manger, le boire. Inconsciemment, notre trésorier, pas Michel Serex, hein, pas Michel Serex, mais inconsciemment, notre trésorier dans lequel je pourrais m'identifier, et toute l'Église avec lui peut-être, imagine, à tort, que la vie spirituelle se situe au-dessus de la vie matérielle, qui aurait deux catégories. Une catégorie de gens comme ça, les gens spirituels, puis une catégorie de gens comme ça, les gens un peu matériels. Mais non. Parce que la vie matérielle, c'est le cadre que Dieu a voulu pour nous. Il n'est pas possible d'y échapper et il n'est même pas sain de vouloir y échapper. Nous pouvons honorer la vie physique. Nous devons honorer la vie physique. Et l'argent fait partie du tableau. Il ne faut pas avoir de complexe, mais de la sagesse à ce sujet-là aussi. D'autant que la Genèse, ce n'est pas seulement la création bonne, mais c'est aussi l'irruption du péché dans le monde. La relation des êtres humains à Dieu est altérée, comme leur relation les uns avec les autres, comme leur relation à la création. La terre elle-même, la terre si bien créée par Dieu, est altérée par le péché, de par notre responsabilité. Ce que nous vivons aujourd'hui, dans un monde créé bon, n'est pas parfait. Le corps, par exemple, tombe malade. Le travail est souvent pénible. Le rapport au bien matériel est perverti. Le rapport à la création elle-même est perverti. Mais en soi, ce n'est pas un mal de profiter de la vie et d'avoir de l'argent. 1 Timothée 4, verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à refuser, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce et prière. Mais ce que Dieu a créé, c'est bon, très bon. Le problème, c'est notre rapport au bien matériel. Et la suite de la Genèse en donne quelques exemples. L'exemple d'Abraham, par exemple, nous invite à réfléchir. À quelque part, on pourrait se demander si toute personne qui marche avec Dieu va devenir riche comme Abraham. On le laisse entendre parfois dans nos milieux évangéliques. Voilà ce que Dieu lui dit. Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Et Abraham est béni. Et Abraham est riche, sans avoir de terre qui lui appartienne. Mais il inspire le respect de tous ses voisins sédentaires. Il a, nous dit le texte biblique, des troupeaux nombreux. Il arrive à lever une troupe de 318 soldats qu'il paye pour délivrer son neveu Lot. Et puis ses descendants seront riches, eux aussi. Et parfois, on prend l'exemple d'Abraham pour parler d'une nécessaire bénédiction matérielle chez les croyants de la Nouvelle Alliance. Là, je remarque deux choses. La plus importante, c'est le rôle que jouera Abraham dans l'histoire du salut. Sa descendance, ce n'est pas des croyants riches. Sa descendance, ce n'est pas des hommes et des femmes blindés de thunes. sa descendance, c'est le Messie. Sa descendance, c'est aussi le peuple du Messie. Une descendance qui est établie par la foi et non par le sang. La descendance d'Abraham, elle n'est pas établie avec la circoncision, parce que la promesse vient avant la circoncision. Elle n'est pas établie par la loi, parce qu'elle est établie avant la loi. Pendant tout un temps, il y aura donc une nation avec des lois, des institutions, une terre à défendre, une nation qui est en alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, il n'a plus de frontières. Il se compose de millions de chrétiens issus de toutes les nations de la terre. Et du coup, la promesse de devenir un homme important et d'avoir un pays qui soit à soi, ben ça joue plus pour nous. Ça joue plus pour nous. Il nous faut plutôt retenir vers quoi pointait l'alliance. Et l'alliance pointait vers le Messie. Et puis une deuxième chose, presque aussi importante, c'est que si Abraham est béni, et il l'est, s'il est béni, c'est pour qu'il soit en bénédiction pour les autres. Ce n'est pas pour qu'il garde tout pour lui. Un homme béni, une femme bénie, n'est pas quelqu'un dont le monde tourne autour de lui. Et c'est comme ça dans tout l'Ancien Testament. La richesse en tant que telle n'est pas condamnée. Dieu crée un monde où on peut s'enrichir, mais le riche est invité à être généreux. Au sujet de la protection des pauvres, il me semble que la loi de Moïse nous laisse quelques pistes importantes. Si nous prêtons attention à ce que la loi de Moïse dit, sur le plan social en particulier, je crois qu'elle peut nous changer. J'ai souvent entendu dire que si les gens sont pauvres, c'est de leur faute. J'ai souvent entendu dire ben, ils ne travaillent pas, ils dépensent leur argent pour des futilités, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et je l'entends parfois encore, chez nous, dans nos églises évangéliques. Mais je pense que cette position n'est généralement pas juste. Parce qu'il y a des régions où il est difficile d'avoir un travail. Parce qu'il y a des métiers qui ne vous permettent pas de payer un loyer. Parce qu'il y a des pays entiers qui sont plongés dans la pauvreté du fait d'une catastrophe climatique, du fait de la corruption d'un clan de dirigeants corrompus, du fait des guerres, du fait des persécutions. Il y a des femmes seules ou des femmes qui sont victimes d'un conjoint dépensier. Bien sûr, le livre des Proverbes dénonce la paresse, dénonce le refus de travailler. Il y a parfois des pauvres qui l'ont bien cherché. Mais il faut toujours confronter la pauvreté, quelles qu'en soient les causes. On ne peut pas se contenter de la pauvreté. L'Évangile nous invite à la confronter. Une deuxième piste. Dans Nombre 26 et dans Lévitique 25, dans le livre de Josué, nous avons le récit de la distribution des terres de Canaan entre toutes les familles. On a de la peine à lire ces chapitres. Généralement, quand on tombe dessus dans notre lecture quotidienne ou hebdomadaire ou annuelle, on saute ces chapitres. Parce que c'est comme un cours de géographie sans aucune carte. Mais ce qui est important de noter, c'est que chaque famille reçoit une terre. Autrement dit, la propriété privée, ce n'est pas du vol. Je sais que certains le pensent, mais ce n'est pas du vol. C'est une protection. Les terres sont inaliénables. Quoi qu'il arrive, des terres restent dans la famille. Et du coup, toutes les familles ont des ressources et peuvent, à un moment donné ou l'autre, se rattraper en cas de coup dur. Lévitique 25 annonce par exemple des lois uniques au monde pour empêcher les gens d'accumuler trop de terres. C'est le principe de l'année du jubilé. Un Israélite peut vendre sa terre, mais jamais à perpétuité. Après 50 ans, la terre lui revient, à lui ou à ses descendants. Si des difficultés financières obligent de vendre de temps en temps, les compteurs sont remis à zéro. Cette loi-là aurait dû empêcher l'émergence d'une classe de gros propriétaires qui écrasent les autres. Cette loi aurait dû protéger les plus faibles. Et à la base, nous constatons là l'importance de la structure familiale. En Suisse de nos jours, la pauvreté et la précarité sont souvent liées à l'éclatement de la cellule familiale. Une troisième remarque. On trouve un système de prise en charge des démunis dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs exemples de lois qui protègent les pauvres. Par exemple, le droit de glaner dans les champs et l'obligation pour les propriétaires de ne pas tout récolter jusqu'à la dernière olive, jusqu'au dernier épi de blé. Et les démunis devaient fournir un effort pour venir glaner, ce dont Ruth va nous donner un bel exemple. La dîme de la troisième année, qui est pour les plus démunis, les lévites, les immigrés, les orphelins, les veuves. On trouve l'importance de payer les salaires à temps, l'annulation des dettes la septième année, la libération des esclaves la septième année, le fait de ne pas travailler le septième jour, de laisser l'échange à chair la septième année, pour dire que la vie, c'est plus que le profit. L'interdiction de renvoyer chez son maître un esclave étranger en fuite, ce qui s'oppose à toute la législation sur les esclaves dans toute l'histoire. On trouve aussi l'interdiction du prêt à intérêt. Et là, il faut que j'ouvre une petite parenthèse. L'interdiction du prêt à intérêt, franchement, ça nous pose problème, à nous, en Suisse. Parce que l'essentiel de notre richesse, depuis des siècles, repose sur un système bancaire super performant qui n'est basé que sur le rendement de l'argent qui est prêté. Mais justement, les lois de Moïse, elles, ne visent pas le financement du développement économique et industriel. Elles visent le prêt accordé aux gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et on comprend là qu'on n'a pas le droit d'alourdir les charges de ces gens-là. Je sais qu'on est loin du compte aujourd'hui, avec le forcing commercial, avec la multiplication des offres de prêts, de crédit à taux outranciers, le crédit revolving. Alors, est-ce qu'un chrétien peut emprunter? Est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir des dettes? Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. J'ai de la peine à me dire à moi ce que je dois faire. Alors bon. Mais la question, elle mérite d'être posée. Romains 13, verset 8 dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La traduction du semeur nous aide un peu. « Ne restez redevable de rien à personne. » Et dans ce même contexte, juste avant, au verset 7, l'apôtre demande aux chrétiens de payer leur impôt, y compris quand ils ne sont pas d'accord avec ce que l'État fait de leur argent. Paul demande aussi que les chrétiens respectent les autorités. L'idéal qu'ils mettent en avant, c'est un idéal de citoyenneté responsable. Rendez à César ce qui est à César, dit Jésus. César, pour Jésus, c'est Tibère. Pour Paul, c'est Néron. Aucun des deux ne sont des enfants de cœur. Donc, il me semble qu'un citoyen chrétien assume ses responsabilités. Il travaille, ou en tout cas il cherche à travailler, il pourvoit aux besoins de sa famille, il ne vit pas au crochet des autres, il partage, il cherche à vivre la sagesse de Dieu. C'est donc la sagesse et non une quelconque interdiction qui nous empêche en un sens de nous endetter. Les emprunteurs de l'Ancien Testament, ce ne sont pas des investisseurs. Des gens qui ont un projet de vie qui les amène à aller trouver leur banquier. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide pour passer un mauvais cap. Le prêt de l'Ancien Testament concerne l'indigent. Alors aujourd'hui, des prêts à la consommation, des prêts pour partir en vacances, des prêts pour se payer un mariage fastueux, ben ça me semble difficilement compatible avec une gestion chrétienne de l'argent. Et ce n'est pas une loi, c'est une question de sagesse. Vivre avec ses moyens, même quand les enfants nous poussent à acheter tel ou tel gadget, même quand la culture ambiante nous pousse à étaler une richesse qu'on n'a pas, vivre avec de la sagesse. Si le prêt que nous demandons pour acheter une maison, un appartement est garanti par le bien lui-même, c'est le système des hypothèques, nous ne sommes pas là dans une situation précaire où nous dépendons exagérément d'autrui. Une quatrième piste. La justice et l'équité dans le système judiciaire. Exode 23 insiste là-dessus. La justice ne doit pas s'exercer au détriment des pauvres et des étrangers. Les pots de vin sont interdits. Lévitique 19, verset 15, dit qu'il ne faut pas spécialement favoriser le pauvre lors d'un procès. Je cite, « Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements, tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. » Tu jugeras ton prochain selon la justice. Un pauvre peut aussi être dans son tort. La Bible n'institue pas une justice de classe, tout en reconnaissant, dans les livres prophétiques en particulier, que les abus du système judiciaire viennent des puissants, pas des pauvres, mais des puissants. Et quand on regarde autour de nous la politique dans notre pays ou chez nos chers voisins, on se dit parfois qu'il y a une justice à deux vitesses, n'est-ce pas ? La loi ordonne la compassion. Deutéronome 15, 7 à 11. Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur. Tu ne lui refuseras pas ton aide. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines et de dire « C'est bientôt la septième année, l'année de la remise des dettes » et pour cette raison, de regarder ton compatriote pauvre d'un mauvais œil sans rien lui donner. Car alors, il se plaindrait de toi à l'Éternel et tu porterais la responsabilité d'une faute. Donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur. Et pour cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. En fait, il y aura toujours des nécessiteux dans votre pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Je trouve frappant que Dieu ordonne la compassion et la générosité. Il s'agit là d'aider un compatriote, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une même communauté. C'est le lien à l'autre qui fait qu'on est solidaire des plus pauvres. Nous en reparlerons plus tard au sujet de l'Église. Les réponses à la pauvreté, elles sont motivées par la reconnaissance envers Dieu et par l'imitation de Dieu. Ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu qu'on intervient en faveur des plus pauvres. C'est parce que Dieu est déjà intervenu en notre faveur. Nous qui, de pauvres que nous étions, avons été rendus riches en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8, verset 9. Enfin, la sollicitude pour les pauvres, c'est un test de notre attachement à Dieu. Quand on a donné aux pauvres, alors on pourra dire qu'on a gardé les commandements de Dieu. Lévitique 19, 10 à 18, avec un refrain, « Je suis l'Éternel ». On ne se cramponne pas à son argent. On partage, on se préoccupe des plus démunis. J'espère que nous ressentons toute la force de ce résumé des dispositions de la loi. Je sais qu'il y a un gouffre immense entre un petit peuple agricole au deuxième millénaire avant Jésus-Christ est une grande société industrielle et financière qui vient d'entamer le troisième millénaire après Jésus-Christ. Les lois ne peuvent pas être copiées telles quelles. Il y a aussi des différences entre Israël et l'Église. Le rôle que joue l'État est bien plus important de nos jours, et cela fait que le particulier se sent moins concerné par les gestes de solidarité individuelle. Mais le test, comme Jésus l'a souvent souligné, ce n'est pas notre obéissance à la lettre de la loi. On n'y arrivera pas, c'est mort, c'est plié d'avance. Le test, c'est l'attitude de cœur, c'est ce qu'il y a dedans. Et c'est là que nous devons nous examiner, et à mon avis, assez sérieusement. Je passe très rapidement au livre de poésie et de sagesse, où nous trouvons deux thèmes qui me semblent complémentaires. La bénédiction de la richesse et la souffrance du pauvre. Boaz était riche, c'était un modèle du genre. David et Salomon étaient immensément riches. On pourrait y voir un signe de la bénédiction de Dieu et on n'aurait peut-être pas tort. Les deux amoureux du Cantique des Cantiques vivent dans un contexte de réel bien-être matériel. Les images qui célèbrent leur amour sont toutes des images de richesse. Job est très riche, et c'est pas pour cela qu'il plonge dans la souffrance. Du temps de sa prospérité, nous dit le texte, il venait au secours des pauvres. L'Ecclésiaste lui-même nous dit de profiter de la vie, de profiter du manger et du boire, de profiter des fêtes, mais de recevoir ces choses comme un don de Dieu. La femme de Proverbe 31 est une femme riche, riche et généreuse. Et en même temps, la richesse, même quand elle est accordée par Dieu, peut être un piège. Salomon dévie. Salomon dévisse. Une loi du Deutéronome disait qu'il était interdit au roi d'amasser des trésors, de l'or. Mais Salomon en avait des tonnes. Il a construit un palais luxueux, un temple luxueux. Il a entretenu une grande armée professionnelle. L'accumulation des richesses lui a permis de devenir un grand patron des arts. Et en même temps, une partie de cette richesse, elle provenait de lourds impôts, de l'oppression matérielle du peuple. Salomon ne l'a pas vu venir. Il n'a pas été puni lui-même de cet excès de luxe. Mais le peuple s'est révolté contre son fils, qui a perdu les deux tiers de son royaume et qui a failli perdre la vie. Louis XIV n'a pas payé pour l'extrême pauvreté de son peuple. Louis XIV, il n'a pas payé pour le luxe obscène de Versailles. Mais à Louis XVI, on a coupé la tête. L'Ecclésiaste a un double message très intelligent ici. Les bonheurs de la vie, on doit les recevoir comme un don de Dieu. On doit les recevoir comme un don de Dieu. Mais ne vivre que pour l'argent, c'est la plus grande des futilités. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. J'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer mes pépinières où croissent des arbres. Je me suis procuré en grand nombre des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique que je ne pouvais pas compter. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et j'ai eu ce qui fait le délice des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi je devins puissant et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. À tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais, de tout ce que je voulais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout cela était dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Ça, c'est le malheur des millionnaires. Hein. Ils ne peuvent pas manger 18 repas par jour. Ils ne peuvent pas acheter l'amour. Ils ne peuvent pas emmener leur argent avec eux auprès de Dieu. Les linceuls n'ont pas de poche. Le plus important, nous dit donc le livre, c'est de craindre Dieu et de garder ses commandements. En même temps, si les livres de poésie et de sagesse parlent de la bénédiction de la richesse, ils soulignent aussi la souffrance des pauvres. Il me semble que le livre des Proverbes résume l'idéal de vie des livres de sagesse. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou alors, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer mon Dieu. Je termine ce survol de l'Ancien Testament avec un très rapide coup d'œil sur les prophètes. En remarquant d'abord que les prophètes exercent leur ministère à l'époque des rois. Et à l'époque des rois, dans la Bible, les inégalités entre la classe dominante et les pauvres s'accentuent comme jamais. Alors les prophètes se préoccupent de péchés contre Dieu, comme l'idolâtrie, comme la magie, comme l'astrologie, comme une confiance superstitieuse dans les rites, sans droiture, sans repentance. Et puis, ils dénoncent quantité de péchés en rapport avec les biens matériels. Par exemple, le goût du luxe au détriment des pauvres. L'accumulation des terres entre les mains d'une oligarchie. Des pratiques commerciales malhonnêtes. L'esclavage de compatriotes. Une justice corrompue, l'orgueil engendré par la richesse. Et en même temps, ces mêmes prophètes ne sont pas contre la prospérité. Par exemple, Jérémie écrit aux exilés qu'ils doivent absolument se faire une vie à Babylone, qu'ils doivent investir à Babylone, qu'ils doivent chercher le bien de la ville où ils sont déportés. Et dans les dispositions des derniers chapitres du Deutéronome, les prophètes voient les revers militaires, voient les tremblements de terre, voient les famines comme des signes du jugement de Dieu du fait de l'abandon de l'Alliance qui recommandait le souci des pauvres. Je conclus, je termine ce survol de l'Ancien Testament par un seul verset, ou trois versets, bien connus du prophète Michée. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Avec quoi m'inclinerais-je devant le Dieu très haut? Irais-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer mon crime, le fils cher de ma chair, pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, ce n'est pas tout ça, c'est que tu te conduises avec droiture, c'est que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Ce ne sont donc pas les gestes religieux qui comptent pour Dieu. Même les plus abondants, même des cultes lissés, même des leaders en or, ça ne compte pas. La seule chose qui compte pour Dieu, c'est une vie menée dans la droiture, avec bonté et humilité. Et il me semble que pour la vie en société, le défi, il est là. L'Ancien Testament, il en parle abondamment. Il suppose des réponses personnelles. Et c'est avec l'enseignement de Jésus que nous allons dans 15 jours, beaucoup plus courtement, approfondir quelques réponses personnelles que nous pourrions apporter à ces défis. Je vous remercie pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse.
Merci. Ces notes de musique nous aident à raisonner après ce que nous avons entendu. Et l'aboutissement de la promesse à Abraham, c'est le Messie, nous a dit Philippe. Et quoi de mieux pour continuer dans cet aboutissement de partager le repas que le Seigneur nous a montré, nous a instauré. Et quoi de mieux que de penser à l'attitude du Christ, son exemple et comment il s'est destitué. Je vous lis dans Philippiens 2, versets 6 et suivants. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes et en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Puis dans 2 Corinthiens 8, Paul poursuit « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Il s'agit bien plus que de biens essentiels, de bénédiction, de santé ou tout ce qu'on veut. Il s'agit avant tout de l'essentiel, le salut par la grâce, par Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes invités de nouveau à partager ce repas. On le fait tous les dimanches, mais peut-être que ce matin, c'est une signification peut-être plus particulière. Et nous vous invitons, dans cet esprit, à prendre les éléments. Et pendant la distribution, vous aurez l'occasion de vous exprimer intérieurement ou à haute voix dans l'esprit de tout ce qui a été dit ce matin. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Venez, tout est prêt.
Nous prions. Dieu et Père, source de toute richesse, nous te remercions pour ta grâce. Et en particulier pour Jésus-Christ, notre Sauveur, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre, pour que par sa pauvreté même, nous soyons enrichis. Quel renversement! C'est le renversement que permet la grâce. Et ensemble, nous voulons te dire merci, Seigneur, nous souvenir de ce que ça t'a coûté, réaliser les horizons que tu nous ouvres, nous réjouir de ce jour où nous partagerons ce repas avec des millions d'autres croyants qui le prendront autour de toi. Merci de nous inviter à cette table, merci pour ton incroyable générosité. Trouve chez nous des hommes et des femmes reconnaissants, dans le nom de Jésus. Amen.
Demandez peut-être à Thierry et Eric de nous aider dans la distribution avec les autres préposés. Sentez-vous libre aussi si vous avez besoin ou si vous avez envie d'exprimer en haute voix.
pièges nous guettent, dans la pauvreté, ce sentiment d'injustice et qui conduit à l'amertume, ou bien dans la richesse, que cette abondance nous rende tiède envers toi, Seigneur. Nous avons vraiment tous besoin de ta sagesse pour que nous puissions nous conduire comme tu le sais. Et merci parce que tu veux nous parler à chacun personnellement, parce que nous sommes uniques devant toi. Alors merci Seigneur pour qui tu es et renouvelle en nous ce désir de te plaire, de t'obéir pour la gloire de ton nom. C'est dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Oui Père, merci pour ta fidélité. Seigneur, même si parfois nous avons dû compter et parfois nous avons été dans l'abondance, Seigneur, toi tu étais là. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ta fidélité, Seigneur, et Seigneur, que tu regardes notre cœur, Seigneur, que nous soyons disponibles aux opportunités que tu mets devant nous. Et Seigneur, que nous puissions répondre à ce que tu attends de nous. Alors, Seigneur Jésus, merci pour cette présence tout au long de nos années, de nos quotidiens. Seigneur, que toi bénis, Seigneur, et que tu bénisses nos vies et chacun d'entre nous.
Seigneur, merci pour ce beau discours sur la richesse et la pauvreté. Il me semble que tu seras présent tout aussi bien pour le plus pauvre que pour le plus riche. Tu sauras mettre sur leur chemin les bonnes personnes. Aide-nous à devenir ces personnes, à devenir je dirais pas tes soldats, mais à ressentir ce que tu nous insuffles, à aller vers ces personnes, qu'elles soient pauvres ou riches, tant pour les aider que pour leur transmettre le message que tu souhaites. Merci pour tout ce que tu nous donnes, la possibilité d'avoir cette salle, la possibilité d'avoir un lieu de réunion, d'avoir du vin, de pouvoir célébrer la scène, de pouvoir partir en bus, en voiture, voilà. À tout le monde qui a ces opportunités-là. Surtout, aidez-nous à penser à tous ceux qui sont en mauvaise santé, qui souffrent, à aller vers ces personnes, à ne jamais les oublier, à toujours penser collectif, à toujours avoir de l'empathie.
Seigneur, dans la reconnaissance, je te dis merci pour ta vie, pour ton don, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci aussi pour ce que j'ai entendu ce matin avec ce survol de l'Ancien Testament et comment cette loi que tu as instaurée, que tu as mise, est percutante et révolutionnaire encore aujourd'hui pour moi. Merci Seigneur, amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter le 454 et pendant ce moment nous aurons l'occasion de poursuivre notre culte avec une offrande. Nous avons ce privilège de pouvoir le faire. Oui, Seigneur, merci encore d'avoir pu participer ce matin à ce temps, mis à part aussi pour l'occasion de montrer par aussi notre don que tu nous as tout donné. Merci. Amen. Vous pouvez prendre place. Il y a quelques petites annonces vraiment brèves. Vous avez vu à l'entrée, au début du culte, il y avait un slide. C'était pour la rencontre de One qui sera le 29, non pardon, c'est le 2 novembre à Fribourg. C'est une grande rencontre. Vous pouvez aller voir aussi sur le site internet de l'AFRE, il y a une petite vidéo qui explique un petit peu quelle sera cette rencontre. Ensuite, il y a le petit Simon, est né mercredi chez Ed et Raël Unkumi Fuxlor, donc mercredi passé. Et ensuite, voilà. Et puis hier, il y a eu la célébration du mariage de Noémie et Jérémy Keller. C'était ici ou à Satigny, voilà. Donc je crois que toutes les annonces sont au bout. Il y a la vidéo de One. Alors on y va.
Flyers sont à disposition à la sortie. On vous encourage à vous inscrire pour cet événement. Peut-être juste vous dire encore que nous aurons mardi soir, 20h15, la rencontre de prière communautaire dans le local du CTT en bas. Bienvenue à chacun, chacune pour cette heure de prière. Je nous envoie, je nous laisse partir sous le regard du Seigneur avec cette salutation de 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Allez en paix, passez un beau dimanche, une bonne semaine, avec la grâce de Dieu. Amen.